Bonjour. Ce matin, pendant le temps de prière qu'on a dans le culte, auquel je vous invite d'ailleurs à venir, Emmanuel a prié en disant « Je ne sais pas qui a le message ». C'est sympa qu'il y a le message, simplement, mais moi je veux dire à Emmanuel, Dieu savait, lui. Dieu savait. C'est incroyable comment Dieu savait et comment Dieu sait et comment Dieu prépare. Et il y avait tout un texte que je voulais lire ce matin et que j'ai dit non, ça va faire trop long, je n'ai pas lu, mais comme il a déjà été lu, c'est donc très bien. Il y a parfois des bouts de versets dans la Bible qu'on pourrait tirer comme ça et sortis de leur contexte, ça ne veut rien dire. Et je vous donne un de ces bouts de versets qui est un verset de la Bible. Hein. La foi peut-elle sauver ? Point d'interrogation. Quand vous lisez ça, vous dites, je ne sais pas quel est l'âne qui a écrit ça. La foi peut-elle sauver ? Cet extrait, c'est un bout de verset, effectivement. Il y a très longtemps, très longtemps, que j'avais dans mes notes et dans mes projets un message sur ce passage de l'Écriture, de l'Épître de Jacques, qui m'a longtemps interpellé, interrogé, voire même taquiné. Et c'est un verset qui dit, je vous le lis en entier, vous le connaissez sûrement, Jacques 2,14, « À quoi cela sert-il ? Mes frères et sœurs, hein, je vais pas, quand on dit mes frères, c'est générique dans la Bible, hein, que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas les œuvres. La foi peut-elle sauver ?» Durant toute une époque, dans les années 80, ce verset nous a été martelé. Martelé pour bien nous montrer d'où venait le salut. Par la foi, bien sûr. Par la foi. Évidence de l'Écriture. Mais surtout pour nous mettre en garde sur le fait qu'un bon comportement, voire un comportement exemplaire, ne peut en aucun cas valider qu'on soit croyant. Et c'est important. Et encore plus qu'on soit sauvé. Il y a dans notre monde laïque, je veux dire, des gens qui sont bien sous tout rapport, à qui on dit, vous savez, cette fameuse phrase, « On leur donnerait le bon Dieu sans confession ». S'il y a une chose qui ne veut rien dire, c'est bien celle-là. « On leur donnerait le bon Dieu sans confession », comme si on pouvait donner le bon Dieu à quelqu'un. Après, le sans confession, vous ferez ce que vous voudrez avec. Mais vous réfléchirez à cette phrase, c'est difficile, hein, pour faire l'exégèse de ça ce matin, vous en faites pas. Pendant toute une période de la vie de l'Église, des Églises, on a en quelque sorte pris ce texte, ce petit texte de Jacques 2,14, pour opposer catégoriquement la foi et les œuvres. Ça veut dire pour dire que c'est pas parce qu'on fait des œuvres ou parce qu'on n'en fait pas que ça veut dire qu'on est chrétien ou pas. Dans une espèce de mélange un peu compliqué parfois. Et puis sans chercher vraiment ce que voulait dire le texte. Et si on n'y prend pas garde et sans trop creuser, on peut même se laisser penser à aller, se laisser. Boum ! J'ai un petit problème de salive. Aller à penser que ce que dit Jacques dans ses versets est contradictoire à ce que dit Paul. Paul qui parle vraiment de la foi. Et donc que la Bible se contredirait. En relisant, il y a plusieurs semaines, ce verset de l'Apocalypse, « Parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche », je me suis dit qu'il était intéressant de rechercher quelques pistes sur ce verset de Jacques. Et d'abord, j'aimerais commencer en posant une affirmation qui doit être dans le cœur de chacun, dans nos pensées et dans notre tête, bien claire. La Bible ne se contredit pas, ne se contredit jamais. Ok ? Amen ? Jamais. Même lorsqu'elle est difficile à comprendre, à interpréter, même quand on discutaille là-dessus, difficile à mettre en pratique, ou qu'elle nous gêne, ou qu'elle nous choque, peut-être, parce que la Bible peut choquer. Moi, il y a des passages dans la Bible qui me choquent. Elle a été, elle est, elle demeure la parole infaillible de Dieu, vraie, réelle, intemporelle, éternelle. C'est le document canonique, unique, entier, indivisible, légué aux hommes et aux femmes, document historique, document testamentaire, qui fixe entre autres les règles de vie et, qu'on le veuille ou non, les conditions de l'héritage des enfants adoptifs que nous sommes, nous les chrétiens, sauvés par la grâce de Dieu. Voilà, ça, c'est posé. On ne peut pas transiger là-dessus, ni même ergoter sur tel ou tel passage qui pourrait laisser penser qu'on pourrait peut-être imaginer que peut-être il pourrait éventuellement laisser entendre que... Non. La Bible est la parole de Dieu. On n'y enlève rien, on n'y rajoute rien. On ne peut pas mettre en doute son origine, son intégrité et sa toute-puissance. Mais on peut en parler. Alors nous devons nous poser des questions sur notre véritable motivation, voire sur notre compréhension, voire sur notre foi. Et bien sûr, cela veut en aucun cas dire que la Bible, on ne peut pas en parler, on ne peut pas l'étudier, la lire, la discuter ou la creuser. Bien au contraire, est-ce qu'il nous est interpellé à faire ? De quoi est-ce que Paul, que Jacques nous parle dans ce texte de ce matin ? Il parle de la foi réelle, de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. Mais ce verset parle avant tout de notre salut, même si le mot « salut » n'est pas en toutes lettres dans le texte. Et Jacques affirme ici une vérité essentielle pour nous qu'il nous faut aussi bien comprendre. La foi toute seule ne sert à rien. Ça vous choque peut-être ce que je dis. La foi toute seule ne sert à rien. Il nous faut donc chercher ce que Jacques veut ici nous dire. Et je voudrais noter trois points. Il y en a d'autres, mais trois points que j'ai choisi de développer ce matin. Le premier, c'est « notre salut ne vient pas de notre foi ». Le deuxième, c'est « déclarer notre foi seulement ne signifie pas forcément notre salut ». Ce qui n'est pas la même chose. Et le troisième, qui sera très court, je l'appellerai « grâce et culpabilité ». Je développe donc ces trois points. Notre salut ne vient pas de notre foi. C'est curieux, hein ? Jacques nous met en garde et nous interpelle sur une certitude, et il nous met à la fin de ce verset, le petit extrait que j'ai pris, « la foi peut-elle sauver ?» Ben, pourquoi on va à l'église ? La foi peut-elle sauver ? Curieuse question. Curieuse question. Alors, il faut un petit peu gratter. Non, en fait, pas si on se rappelle simplement ce que nous dit la Bible. Jacques veut dire que notre foi n'est pas la raison première de notre salut. Notre foi, je répète, n'est pas la raison première de notre salut, même si elle y contribue. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et que nous dit la parole de Dieu ? Elle nous dit que nous sommes sauvés grâce à la croix. Nous sommes sauvés grâce à la croix par le moyen de la foi. C'est différent, tout à fait différent. Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est donc par la grâce que nous sommes sauvés. Nous l'avons lu ce matin, Pierre nous l'a rappelé, Tite, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Notre salut vient donc d'abord et premièrement de la grâce de Dieu. À quoi servirait la foi s'il n'y avait pas la grâce de Dieu ? Ben, ça servirait à croire en une religion, en un dogme, un rite, une habitude. La grâce est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Le salut des hommes, c'est le plan de Dieu pour racheter les hommes. Un cadeau, une grâce que nous recevons de Dieu. Nous ne pouvons en aucun cas, et c'est ce que tente à nous dire Jacques, nous ne pouvons en aucun cas nous attribuer ce salut par nous-mêmes. On ne peut pas se sauver tout seul. Alors se sauver, quand on a peur, ça on sait faire, mais on ne peut pas se sauver de la chute. On ne peut pas se sauver de cette privation de Dieu tout seul. La Bible nous enseigne donc que notre foi contribue à notre salut. Elle en est le moyen par votre foi. Elle en est le moyen dans le sens où elle est la réponse à Dieu et l'acceptation de cette grâce, cette proposition de salut qu'il fait à l'humanité et qu'il nous fait donc personnellement. Le salut est donc d'abord et entièrement initié par la grâce de Dieu, la grâce qu'il nous fait à la croix. Il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour cela, pour notre salut. C'est Dieu qui, à Pâques, offre potentiellement, je dis bien potentiellement, cette grâce à tous les humains. Potentiellement, c'est là que va intervenir la foi, potentiellement. Il y a quelques années, on a vu le retour d'un chanteur de nos folles années, quand, en tout cas quand j'étais jeune, moi, Paul Naref. Vous voyez le personnage ? Paul Naref, c'était le chanteur à la mode, comme, je ne sais pas, Vianney maintenant, ou d'autres comme ça, chanteur à la mode. Et à cette époque-là, il chantait, Paul Naref, « Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira tous au paradis. On ira, même moi. » Je continue, « Toutes les bonnes sœurs, tous les voleurs, toutes les brebis, tous les bandits, on ira tous au paradis, même moi. » Ça craint un peu, hein ? Affirmation peu sensée, en tout cas face au plan de salut de Dieu. La foi est et demeure seulement la réponse des hommes et des femmes à l'offre de salut de Dieu. Et cela va se jouer et se vivre d'abord dans un tête-à-tête, ou plutôt un cœur-à-cœur entre l'homme et son Dieu. Entre la femme et son Dieu, dans l'intimité la plus étroite et la plus profonde de cette communion entre les deux. Dans cette lutte où les ténèbres et la lumière se disputent la place, où l'esprit de l'ennemi conteste la place à l'esprit de Dieu. Pratiquement, cela signifie réponse positive par la foi à l'offre de salut de Dieu. Salut, vie éternelle. Mais, le contraire, pas de réponse ou refus, pas de salut. Et là, une phrase qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est mort éternelle. C'est le contraire. Autrement dit, désolé pour Paul Naref, mais on n'ira pas tous au paradis. Désolé. C'est donc bien la grâce de Dieu, véhiculé par le sacrifice de Jésus sur la croix, qui nous offre la possibilité, par notre foi, et c'est là notre partie à nous, en ce sacrifice, la foi est bien ici synonyme de réponse positive à cette offre de Dieu, qui nous offre la possibilité d'être sauvés, c'est-à-dire d'avoir de nouveau accès auprès de Dieu, auprès du Dieu d'éternité. Premier point qui était important. Deuxième point, important aussi, et qui est en quelque sorte le but ou la raison de ce questionnement de Jacques, est de déclarer que notre foi ne signifie pas forcément notre salut. Et là, je vais essayer de m'expliquer. Dans la pensée de Paul, qu'on considère comme le plus grand des apôtres, il est clair que le plus important, c'est la foi. C'est l'acte de foi dont on a parlé ce matin déjà. Et que par elle et elle seule, l'approbation, la reconnaissance et finalement le salut sont accordés par Dieu. Crois au Seigneur Jésus et foi en lui et tu seras sauvé. Oui, mais parce qu'il y a la grâce de Dieu avant. Dans le chapitre 11 des Hébreux, dont on a parlé ce matin, Paul nous parle de ces héros de la foi. Combien de fois vous croyez que dans le chapitre 11, il y a l'expression « c'est par la foi » Emmanuel, tu l'as relu. Il y a un peu moins. Il y a explicitement, juste ces quelques mots, écrits 21 fois en 18 versets. 21 fois. Et un tas de fois où c'est sous-entendu. C'est-à-dire où on met plein de phrases derrière. Donc c'est toutes les fois, c'est par la foi que. On ne le répète pas, parce que autrement, c'est un big chapitre, on n'arriverait pas. Comprenez, dans ce passage de Jacques, ce n'est pas par votre mérite, par vos actes ou par vos actions. Jacques, qui parle de la foi et des actes, est totalement en accord avec Paul, avec la pensée de Paul, qui est celle du plan de Dieu. Et ce qu'il nous dit et veut nous faire comprendre dans ce passage, c'est que le fait de dire à haute voix, pour n'importe qui, « j'ai la foi », n'est pas forcément synonyme de salut. De même de dire « je suis chrétien » ou « je crois ». Combien de personnes dans notre monde vont dire « ouais, moi je suis chrétien, ils n'ont jamais mis les pieds dans une église » parce qu'ils sortent d'une famille ou d'une tradition ou cette famille chrétienne ou croyante. « Je suis croyant », mais ils ne vont jamais vous dire en quoi ils croient et comment ils croient et où ils croient. Et donc, ce que Jacques veut dire ici, c'est que, attention, dire « je crois », il faut encore savoir en quoi, « je crois en l'Église », ça va nous amener quoi ? Non, « je crois ». Et c'est ce que Jacques veut nous dire ici. Il explique clairement que la foi réelle, et on en a parlé ce matin déjà, la foi réelle met d'office le croyant en route. On en a parlé ce matin, en route, en marche sur le chemin de l'Évangile, et va le faire agir, entrer en action, en acte, on est dans les mêmes mots ici. C'est la foi et les actes dont Jacques nous parle, pour finalement porter du fruit. Vous connaissez tous les passages de la parole de Dieu qui parlent de l'arbre et de ses fruits. Luc 6, 44, entre autres, on reconnaît un arbre à ses fruits. On ne va pas reconnaître un arbre à ce qu'il dit « je suis un frêne ». Non, vous vous promenez dans la nature, vous avez une pomme de pin qui vous tombe sous le nez, vous dites « tiens, c'est un pin ». Ou bien vous allez passer et dire « oh, le beau cerisier ». Pourquoi ? Parce qu'il y a des cerises. Le chrétien, c'est la même chose. On le reconnaît à ses fruits. Alors, qu'on soit un cerisier, un pommier ou un pin, on va le reconnaître à ses fruits. Si Paul parle avec clarté des fruits de l'esprit, il parle aussi des dons de l'esprit, et il les différencie assez nettement, et ça nous intéresse pour ce matin. Dans l'épître de Paul aux Galates, il nous est dit, les fruits de l'esprit, il faut bien comprendre, ce que l'esprit de Dieu met en nous, met en chacun de nous, Ce que l'Esprit Saint produit en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Voilà ce que nous dit Paul. C'est exactement ce que veut nous faire comprendre Jacques. Ces fruits de l'Esprit sont des attributs généraux et communs qui vont équiper chaque croyant qui a une foi réelle, et le mettre en marche dans sa nouvelle vie. Et vont donc apparaître dans ses actes, dans ses actions, c'est-à-dire dans les œuvres de chaque personne sauvée par la grâce et qui croit par la foi. C'est important. La foi, mais toutes les actions, les œuvres que l'Esprit va mettre et qui font que une foi sans ces œuvres-là ne veut rien dire du tout. Si ma foi, c'est simple ma foi, ma façon de croire, c'est juste de venir m'asseoir là le dimanche et le reste de la semaine, peanuts, quelle foi j'ai? Qu'est-ce que je véhicule? Qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je peux recevoir? Rien du tout si je ne mets pas en pratique l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité et tout ce qui va avec. Et dans Matthieu 7, il nous est dit au sujet des chrétiens, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est terrible, hein ? On ne dit pas c'est à leur foi que vous les reconnaîtrez, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La foi de tous les croyants doit et se lie au travers de ces éléments, de ces comportements que produit l'esprit dans le croyant. Ces éléments sont alors et deviennent et restent les caractéristiques qui régissent désormais celui qui a fait cet acte, ce pas de foi. L'Esprit de Dieu les attribue aux croyants d'office. D'office. C'est à lui par la foi de les mettre en route. Par contre, pour bien faire la différence, les dons ou les ministères que Paul décrit en 1 Corinthiens 12 sont des qualifications personnelles, spécifiques, attribuées individuellement par Dieu à quelqu'un pour l'édification des frères et des sœurs. Et cette liste, elle est établie, et Paul l'explique très bien, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et un peu plus, il est conseillé d'aspirer aux dons les meilleurs. Mais dans ces dons, il y a la même chose, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité dans l'application de ces dons. Par contre, Dieu va donner à quelqu'un un don de clairvoyance, un don de direction, un don de compassion. On a eu la semaine, il y a 8 jours, la cérémonie pour le décès d'Anne-Lise. Anne-Lise a reçu de Dieu véritablement un don de prière. Voilà, un don entre autres. Et Anne-Lise l'a toute sa vie avec bienveillance, avec amour, avec bonté, avec fidélité, avec patience, avec paix, avec joie aussi, l'a mis au service de beaucoup de personnes. Un exemple. Nous devons tout savoir comme moteur et comme base de vie dans notre tête, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos actes, ces éléments que Dieu met dans notre cœur à la conversion, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Alors, Jacques nous met en garde ici. Et met en garde les personnes qui se disent croyantes et ne sont justement pas en route sur le chemin avec Dieu. Et nous devons nous poser en question, nous mettre en question, est-ce que je suis en route sur le chemin avec Dieu? Est-ce que ces attributs-là sont les bases de ma vie de tous les jours? Est-ce que je vis vraiment selon l'Évangile? Il y a autour de nous, il y a certainement parmi nous, des personnes qui se disent chrétiens mais ne vivent pas l'Évangile et qui finalement se croient sauvées ou laissent encore penser qu'elles le seraient mais ne le sont pas parce qu'elles n'ont pas mis cette foi en pratique tous les jours, en action. J'ai envie de dire consciemment ou inconsciemment, peut-être parce qu'elles n'ont pas compris, peut-être parce qu'elles n'ont pas reçu, peut-être qu'elles n'ont pas reçu parce qu'elles n'ont pas demandé. Peut-être elles n'ont pas cette intimité avec Dieu. Souvenez-vous la terrible histoire du figuier dont on a parlé il y a peu de temps. Elle est raide, hein, cette colère de Jésus après ce figuier. Mais Matthieu 7, 19, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Vous savez, c'est ni plus ni moins que ce qu'on fait dans un verger. Je suis allé acheter des pommes cette semaine en Haute-Savoie et Toutes les années, ils coupent 5% du verger. Ils enlèvent. Ils laissent une année en jachère et ils replantent. Toutes les années. Pour régénérer les arbres. Pour régénérer les souches. Mais c'est un peu ce que Dieu fait avec nous aussi. Alors la foi, oui. Oui. Disons clairement en qui nous croyons. Je crois en Jésus-Christ. Qui a donné sa vie pour moi. Et je crois dans le plan de salut de Dieu. Mais en laissant l'Esprit nous remplir, nous modeler pour créer un élan en nous, au-dedans de nous. L'exemple que nous donne Jacques dans la suite du texte est aussi dur que l'histoire de ce figuier. Et je vous lis la suite au verset 15 de Jacques 2 pour ceux qui veulent suivre. Jacques 2. Oui, Jacques 2, verset 15. Écoutez, parce que ça parle vraiment. On parle d'avoir la foi. Hein. Oh là là, j'ai une foi sensationnelle. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et ça, il y en a plein autour de nous, et que quelqu'un d'entre nous vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, mangez bien, bon app, quoi !» et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour leur corps, à quoi cela sert-il ? Interrogation pour notre foi. À quoi cela sert-il ? Jacques paraît très dur dans ce qui semblerait être un jugement qu'il fait par rapport à ces personnes, mais à chacun de nous d'y réfléchir pour notre vie. En nous mettant devant un miroir et en osant nous regarder en face de notre vie, de notre fonctionnement, de nos pensées, de nos jugements, de nos actes et de nos œuvres. Est-ce qu'il reflète vraiment ce que l'Esprit a mis en nous quand nous avons cru ? Et Jacques 4, le verset 17 nous dit clairement, la foi, si elle n'a pas d'œuvre en elle-même, comprenez par œuvre, mettre en place cet amour, cette joie, cette paix, cette bonté, cette fidélité, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Est morte en elle-même. Et là, on doit s'interroger soi-même. Et Jacques insiste, et j'aime bien cette phrase au verset 20, « Mais veux-tu te convaincre ?» en disant « Mais hé, oh, réfléchis mon gars. Veux-tu te convaincre, ô homme vain, qui sert à rien, hein, c'est vain, ça sert à rien, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» J'aimerais vous laisser cette phrase, « Veux-tu te convaincre que la foi sans les œuvres est inutile ?» Dieu nous veut en action avec lui, avec les attributs qu'il nous donne gratuitement. Gratuitement, pas la peine, c'est pas par option à acheter au fur et à mesure, hein. C'est gratos dès le début, il y a le package complet avec, on peut tout prendre. Notre bilan, malheureusement, est bien souvent sans appel et doit nous remettre en question sur la place que nous avons laissée ou que nous laissons à l'œuvre de l'Esprit en nous. Et le constat, bien souvent, n'est pas agréable. Alors, je veux terminer par une note positive quand même. C'est peut-être pas très positif, mais c'est important de se rappeler. Car Dieu est un Dieu positif, un Dieu qui va vers l'avant, il va vers la vie. Quelques mots et quelques versets d'encouragement sur le troisième point, grâce et culpabilité. En se rappelant que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est amour. Il n'est pas le père fouettard qu'on a souvent pensé. Celui qui ne nous permettrait ni liberté, ni joie, et qui voudrait pour nous une vie seulement faite de renoncement, de tristesse et d'esclavage. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous avez cette image-là de Dieu, moi j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux, lisez la Bible. Et vous verrez tout autre chose. Dieu nous veut épanouis, épanouis, heureux, heureux. Moi, j'arrive pas, hein, je suis encore mais heureux. La banane, comme on dit, hein, qu'un grand sourire. Dieu nous veut heureux, fier de marcher à ses côtés pour faire de toutes les nations des disciples. Il veut nous guider, nous former, nous aiguiller, nous reprendre si nécessaire, mais il veut notre bien pour aujourd'hui, en vue de notre salut pour demain. Dieu ne veut pas que nous vivions courbés ou accablés par la culpabilité. Non, non, c'est pas ça le plan de Dieu. Dieu nous veut relever, libérer, debout et en route par sa grâce. Alors je vous lirai pour terminer le psaume 103, qui va dans ce sens. L'Éternel est compatissant et miséricordieux pour nous, hein, lent à la colère et abondant en grâce. Heureusement qu'il est lent à la colère, parce que s'il était rapide comme Jésus a chassé les marchands du temple, on en ramasserait souvent, hein. Lent à la colère, abondant en grâce. Il ne conteste pas à perpétuité et ne garde pas sa colère à toujours. La grâce de l'Éternel est d'éternité en éternité sur ceux qui le craignent. La grâce de l'Éternel est d'éternité en éternité sur ceux qui le craignent. Moi, quand je dis ça, je trouve que c'est génial, quoi. C'est génial de savoir que même si je fais des bêtises, même si je suis pas bien, pas en route, que je trébuche tout, sa grâce est là d'éternité parce que je le crains. Sa justice sur les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses commandements. Ah, ses commandements, on retrouve amour, joie, paix, patience, bienveillance, fidélité, bonté, et qui se souviennent de ses commandements pour les accomplir. C'est ce que nous pouvons souhaiter pour chacun de nous. C'est ce que nous puissions jour après jour dans notre chemin avec Dieu. Vivre cette grâce, la grâce de cette alliance, par notre foi, en marche avec tout ce que l'Esprit de Dieu nous apporte, jour après jour, comme équipement, chaque jour, jusqu'au bout du chemin, ici-bas, avec lui, en attendant son retour. On peut se demander ce qui restera de notre vie à chacun de nous une fois qu'on aura disparu. C'est-à-dire quelle est l'image que les gens vont garder de nous. Il y a une image, ah, tiens, je me rappelle d'un tel, il était comme ça, ou bien oh, il était marrant, ou il avait une tronche, pas possible. On garde juste quelques petits, souvent on garde que les bonnes choses, mais on garde juste quelques petites choses. Et j'ai lu cette semaine une toute petite phrase, vous allez peut-être deviner de qui il s'agit, mais d'une personne qui est décédée depuis longtemps et qui, de son vivant, alors qu'elle était dans la pleine gloire, on va dire, par rapport à sa foi, hein, était interrogée sur ce que, vraiment qu'il était une grande stature et sur ce qu'il avait laissé, qui était vraiment un exemple, tout, et qui dit la chose suivante. Il ne savait pas du tout, hein, mais cette personne allait être assassinée. Je veux juste que vous puissiez dire que j'ai tenté d'aimer et de servir l'humanité. Cette personne, c'était Martin Luther King. Je veux juste que vous puissiez dire que j'ai tenté d'aimer et de servir l'humanité. Voilà un petit peu l'humilité que Dieu, nous-mêmes, il y a tout dedans. Il y a tout. J'ai tenté, c'est-à-dire avec mes forces à moi, mais avec la force que me donne Dieu, d'aimer et de servir l'humanité. Marcher, tenter, aimer, servir. Que Dieu nous bénisse et vous bénisse. Amen. Je vous invite à un petit moment de prière. Si une ou deux personnes veulent prier, qu'elles le fassent tout à fait librement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est la vérité. Hier, aujourd'hui, demain. Merci parce qu'on peut se baser sur ta parole et qu'elle est fidèle et qu'on peut aussi nous rester fidèles à ce qu'elle nous demande. Alors on veut ce matin t'adorer, te louer, te remercier pour ta miséricorde, pour ta patience, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Et Seigneur, on veut te demander qu'on puisse, avec cette foi que tu nous permets d'avoir, dans ton salut, avec cette foi, marcher jour après jour avec toi à nos côtés, en sachant que c'est toi qui tiens notre main et que tu nous guideras pas à pas. On veut te bénir et t'adorer pour cela. Gloire à ton nom. Amen.
Je partage avec vous les annonces. Je vous laisse découvrir le programme de la semaine à l'écran. C'est encore les vacances, donc la chorale se réunira dans 10 jours, jeudi, dans, pas la semaine qui vient, la semaine d'après. Par contre, le samedi qui vient, vous avez vu, il y a le club d'enfants. Alors, si on veut qu'il y ait des enfants qui viennent, il faut les inviter. Et puis, il y a quelques invitations encore au fond de la salle. Servez-vous, distribuez-les abondamment. Dimanche prochain, culte. Je vous avais annoncé culte avec portes ouvertes. Ce culte se fera plus tard. On aura donc un culte habituel, tout simplement parce que Marc Trévis, le nouveau responsable régional de Portes Ouvertes, est en arrêt maladie. Alors on veut aussi penser à lui. Je n'ai pas d'autres informations, mais on peut quand même penser à lui, prier pour lui, que Dieu le renouvelle dans son corps, dans ses forces aussi. Mardi, dans une semaine, donc le 24, il y aura la réunion des aînés. Et puis le samedi 28, donc dans 2 semaines, à Bellegarde, nos amis Mennonites reçoivent les Light Club, les Light Clubbers. J'ai marqué version pro. On a l'habitude de les voir venir souvent en été, où ce sont des jeunes qui font des animations. Et puis là, c'est l'équipe de base, en fait, qui va se produire à Bellegarde. Donc, ce sont des gens qui ont plus l'habitude et qui sont, des pros, quoi. Il y a une grande affiche au fond. Il y a aussi des petits flyers. Servez-vous, n'hésitez pas. Et puis, le premier week-end de mai, on aura donc le culte en commun de la pastorale le 6 mai. Mais le 5 mai, donc le samedi soir, on invite Philippe de Courroux pour un concert le samedi soir à 20h30, donc dans la même salle que celle où il y aura le culte, donc à la salle de Lachenaille. Voilà, donc notez-le. On avait essayé de l'inviter pour un culte, finalement ça n'avait pas joué. Et puis voilà, donc il est invité dans le PJX par l'ensemble des églises de la pastorale. Je vous rappelle le club d'été, il y a encore des flyers, servez-vous, là aussi distribuez-les. Il y a déjà beaucoup d'enfants inscrits. Il reste plus que 23 places, waouh. Donc ciblez les gens à qui vous les distribuez, c'est important. On va aussi penser à Mathieu Trottin qui a perdu sa grand-maman, donc la grand-maman maternelle, la maman de Hélène Trottin. Donc ils ne sont pas venus ce matin parce qu'ils vont tout de suite partir, les parents. Donc voilà, Anne-Laure, tu peux transmettre toutes nos salutations, nos condoléances, notre sympathie aussi à Mathieu et à ses parents. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les travaux avancent petit à petit. Il y a des arbres qui ont été coupés au fond de la propriété de ce côté-là, hier. Et puis, dans 2 semaines, on va commencer des travaux importants. On va commencer les travaux pour la création du WC douche au sous-sol. Donc pour ça, on va casser la moitié du sol de la cave. Vous voyez un petit peu le bazar que ça va faire, quoi. Alors là, on aurait besoin de personnes parce que l'équipe des travaux, c'est bien, elle le fait un petit peu tous les samedis, mais parfois quand ça fait beaucoup, on fait appel à d'autres. Donc on fait appel à de bonnes volontés pour le samedi 28 et le samedi 5 mai. Alors il y a une feuille où on peut s'inscrire. Ça ne sert à rien d'être trop nombreux non plus parce qu'à un moment donné, on se marche dessus. Donc pour le samedi 28 avril, on a besoin de 3 personnes costauds pour évacuer les gravats. Donc en fait, on va casser le sol en béton, il faudra charger sur des brouettes, mettre dans des bennes et puis ça va partir. Donc là, il y a besoin de 3 personnes déjà le matin et puis 2 personnes à partir de 17h30 pour nettoyer un petit coup quand même parce qu'il y aura de la poussière. Et puis le 5 mai, donc la semaine d'après, on aura besoin de 3 personnes aussi pour creuser, et puis on va faire des travaux de maçonnerie. Donc là, on aura aussi besoin de 3 personnes, juste le matin, et puis 2 personnes pour nettoyer aussi à partir de 14 heures. Alors, inscrivez-vous, c'est important qu'on sache aussi qui est là, sinon on fait des relances un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas de vous engager, ce sont des chouettes moments. On passe des bons moments ensemble. Voilà. Je vous invite à vous lever. Je vous partage encore 3 versets dans Psaume 22. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.